inserimento alle spalle della difesa del Milan.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Une heure d'information consacrée au football européen essentiellement, mais vous le savez, cette semaine, on a rendez-vous avec les quarts de finale des coupes africaines, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Le Maroc a trois équipes, mais on s'intéressera surtout à la Ligue des Champions. Plusieurs équipes, vous le savez, du poids lourd, puisque l'Espérance, Al Ahly, sans oublier le TP Mazembe ou encore l'Wydad de Casablanca se rend en lice. On va également parler de ces rumeurs qui circulent à travers la presse. L'avenir de Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, il est annoncé un peu partout. On a parlé de l'Iran, on a également parlé d'Europe et surtout l'Olympique lyonnais. Laurent Blanc, plusieurs noms ont circulé. Et puis également là, le Sénégal, vous le savez. Eh bien, le Sénégal et la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé sera-t-il sur le banc des Lions de la Teranga? On verra cela en détail avec nos experts. On parlera également du football anglais, vous le savez, la coupe et également le championnat. On parlera en France, par exemple, vous le savez, le PSG peut être sacré dès ce week-end, tout comme la Juve en Italie. On ira en Espagne parce qu'il y a un match très important. Le Barça, le leader qui reçoit l'Atlético Madrid, il y a encore des chances de remporter le titre. Et puis l'Allemagne aussi, avec ce choc contre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. La France et l'Europe et l'Afrique pour commencer. Daniel, parce que j'étais en train de lire un des auditeurs. Il est avec nous, Hervé Penaud, notre monsieur football Afrique et monde. Bonsoir, Hervé.
Bonsoir à vous tous, mes amis. Oh, et Daniel, c'est pas mal comme prénom aussi.
Bien sûr, c'est très beau. Aurélien de Vernois est également avec nous. Bonsoir, Aurélien.
Bonsoir, Hakim, et bonsoir, Daniel, hein, du coup, hein, puisque c'est ton nouveau prénom, Hervé, ce soir. Il y a eu des grands Daniel quand même dans le foot français, hein. Daniel Leclerc, enfin bon, c'est un temps prénom qu'on peut porter avec fierté.
Ben voilà, c'est le surnom de Hervé Penaud, ça vous va bien d'ailleurs, Daniel. Et on aura dans cette première partie également Simone Rovera, on parlera de la Juve et malheureusement de ce qui s'est passé en cours de semaine, vous le savez, ce problème des cris de racisme des supporters, un joueur de la Juve, ça sera tout à l'heure vers la fin de la première partie de l'avant-match. Mais d'abord, on commence par le football en Afrique, Hervé, et on commence par la Ligue des Champions, ou bien ces rumeurs concernant Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, annoncé du côté de Lyon, puisqu'on le sait, l'Olympique de Lyon, l'Olympique lyonnais, eh bien, avec Genesio, le technicien français, ne devrait pas rester du côté de Lyon la saison prochaine.
À première vue, il ne devrait pas rester, parce que l'une des clauses était une qualification pour la finale de la Coupe de France, et comme la Coupe de France n'a pas été obtenue par les Lyonnais, puisqu'ils ont été éliminés chez eux par Rennes, eh bien, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas eu cette reconduction automatique qui était prévue dans son contrat. Alors attention, vous savez, à Lyon, tout est possible, on verra d'ici la fin de saison. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, attention, hein, en termes de transfert, des fois, les mois, les semaines même évoluent, et puis les points de vue évoluent aussi de la part des décideurs. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Hervé Renard n'a pas du tout été contacté pour prendre l'équipe de Lyon, et qu'il n'a aucune chance d'aller à Lyon aujourd'hui. Déjà, n'oublions pas une chose toute bête, mais il avait travaillé avec le frère de Jérôme Sédou, qui est quasiment le bras droit de Jean-Michel Aulas, et ça s'était pas très bien passé à Lille, puisque son frère était président de Lille. Donc ça jouera peut-être pas en sa faveur, et même s'il avait été mis dans des conditions catastrophiques à l'époque quand il arrivait à Lille, hein, où on l'avait empêché de prendre les joueurs qu'il voulait, et puis la plupart étaient partis, donc c'était très compliqué, et donc il avait été viré, mais viré en plus en ayant une équipe qui n'avait pas des si mauvais résultats que ça. Donc c'était un peu particulier le contexte lillois à l'époque. Donc aujourd'hui, Le nom de Renard qui revient sur l'équipe de Lyon, c'est absolument faux, notamment sur l'histoire déjà de Saïs Ziyech qui serait dans la vue d'Hervé Renard pour le mois de juillet. Ça, tout ça, vous pouvez oublier. Il n'y a jamais eu de discussion faite avec Hervé Renard. Et c'est logique, puisque de toute façon, ils étaient persuadés que Genesio gagnerait ce match et qu'il serait reconduit deux années de plus.
Voilà donc pour cette information concernant Hervé Renard annoncé du côté de Lyon. Une autre question à propos d'un autre sélectionneur et ensuite on parlera de la Ligue des Champions, celui de Aliou Cissé parce que, eh bien, apparemment, Hussam Hassan, l'ancien international égyptien, aujourd'hui entraîneur, eh bien, il a déclaré lui-même être en contact avancé avec la sélection sénégalaise pour prendre en main les Lions de la Teranga pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu justement en Égypte, en lieu et place d'Aliou Cissé.
Oui, alors ça, je ne sais pas qui a fait la traduction de la conférence de presse d'Oussama Hassan, mais je pense que là, alors soit c'est Oussama Hassan qui a parlé de choses qui sont totalement fausses, soit une traduction qui a été très approximative, soit un journaliste qui, bon, je ne sais pas, avait eu une journée un peu compliquée ou un peu arrosée. Toujours est-il que je ne vois pas comment Hassan pouvait déclarer qu'il allait prendre l'équipe de Sénégal, alors que Aliou Cissé était reconduit, effectivement avec des objectifs. Il devra arriver demi ou finale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, ou finale, ou vainqueur, je ne sais plus exactement, je n'ai pas en tête toutes les clauses du contrat, mais ce qui est certain, c'est qu'ils l'ont repris pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de souci, ce sera Aliou Cissé sur le banc du Sénégal. Alors si je me trompe, on pourra réécouter ça, mais je serais très, très étonné de voir un entraîneur qui ne connaît pas du tout les joueurs sénégalais venir comme ça s'asseoir sur un banc juste au début de la CAN en disant « bon allez, maintenant je vais prendre l'équipe ». Rappelez-vous, le dernier entraîneur qui est venu dans des conditions aussi apocalyptiques, c'était Camacho avec le Gabon, et son équipe avait totalement explosé puisqu'elle avait été éliminée dès le premier tour de sa propre CAN en 2017. Les Sénégalais sont des gens raisonnables. Le président Senghor est quelqu'un de très raisonnable, qui a jusqu'à présent réussi petit à petit à monter une fédération qui tenait la route. Donc il n'est certainement pas question d'aller virer quelqu'un qui est en plus apprécié par ses joueurs et qui jusqu'à présent a fait le travail qu'on lui demandait.
En tout cas, la presse égyptienne annonce une grande nouvelle pour le lundi 8 avril. On suivra ce dossier, bien sûr. On fait confiance à Hervé Penaud. Une dernière information concernant l'Afrique, bien sûr.
Attendez, hein, s'il y a un changement de dernière minute, je serais très surpris.
Bien sûr. Mais on suivra, bien entendu, parce que quand même, le Sénégal qui dispose d'un potentiel énorme, l'équipe qui a participé à la dernière Coupe du Monde et qui fait partie des favoris, en tout cas pour essayer de gagner enfin un titre africain. En parlant du football africain, la Ligue des Champions, c'est les quarts de finale aller. D'abord, ce match du WAC, ça sera face à l'équipe de Houroué de Conakry, mais il y a d'autres affiches à l'image de ce derby maghrébin entre le CS Constantine et l'Espérance, qui vient de perdre la Supercoupe, mais qui a remporté la Supercoupe de Tunisie. Mais d'abord, un petit mot sur l'équipe du WAC qui a eu du mal, qui voyage mal cette saison par rapport aux dernières éditions.
C'est vrai. Il y a moins de certitude dans ces matchs à l'extérieur. Bon, par contre, elle a quand même réussi à renverser la tendance chez elle. Bah, c'est important pour le WAC. On va voir ce qu'ils seront capables de faire dans cette ambiance. Alors, je connais bien, moi, Oroya. Je connais bien l'ambiance qu'ils vont avoir. Alors, logiquement, il devrait quand même y avoir du monde. Alors, c'est pas comme l'équipe nationale de Guinée. Il y a quand même moins de monde. Oroya attire moins qu'à une certaine époque. Mais il n'empêche qu'on a la sensation que le football guinéen est en train de renaître de ses cendres. Alors, c'est plus le grand Afia des années 60. Mais il n'empêche que ce Oroya-là, qui était déjà qualifié pour les quarts de finale, qui a aussi modifié sa structure puisqu'il vient tout juste de changer d'entraîneur. Alors pour des raisons un petit peu obscures, visiblement ça se passait mal entre le président du club, le fils de Soaré qui est lui-même le président de la fédération française et la fédération guinéenne de football, et l'entraîneur. Donc ils ont changé, ils ont récupéré un entraîneur qui a déjà exercé dans la région. Mais il y a quand même toujours cette incertitude, savoir comment lui va pouvoir se mettre au niveau d'un tel match. Mais pour le WAC, ce qui va être important, c'est être capable d'hausser l'intensité à l'extérieur, parce que c'est vrai que la finale de la Supercoupe c'était une chose, mais là aujourd'hui c'est pas tout à fait le même contexte, le terrain est pas exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ils vont pas être dans les conditions qu'ils peuvent connaître habituellement ou qu'on peut même connaître dans les pays du Golfe.
Voilà donc pour ce match du WAC, la Ligue des Champions. Bien sûr, il y a le TP Mazembe qui est toujours en course, mais on aura l'occasion de revenir sur les matchs des quarts de finale parce qu'il y a la Coupe de la CAF également. Vous restez avec nous, Hervé, on va revenir pour évoquer le championnat de France et le PSG qui peut éventuellement être sacré dès ce week-end. L'Angleterre. On le sait, l'Angleterre, vous le savez, City et Liverpool, c'est le chassé croisé, Liverpool qui passe en tête, City qui repasse en tête, et City ce week-end ne joue pas. Son match a été reporté mardi prochain, puisque City, dispute la coupe ce week-end. C'est bien ça, Aurélien ?
Tout à fait, c'est les demi-finales de la Coupe d'Angleterre qui se disputent ce week-end. Et Manchester City jouera donc demain contre Brighton, alors que dimanche, ce sera Watford qui affrontera Wolverhampton. Donc c'est des demi-finales un petit peu étonnantes, hein, FA Cup. Hein, c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul des gros qui soit représenté à ce stade. Et donc du coup, ça va donner probablement une finale assez ouverte. Alors évidemment, tout le monde attend le fait que Manchester City se qualifie face à Brighton. C'est, on va dire, très probable que les Citizens se qualifient. Après, il y a un peu plus d'incertitude dans l'autre demi-finale. Watford-Wolverhampton, c'est deux bonnes équipes du deuxième championnat d'Angleterre, celui qui se fait en dehors du Big Six. Et ça va être un match intéressant à suivre. Et puis, l'enjeu, évidemment, pour City, c'est se qualifier pour la finale et puis remporter déjà son deuxième titre de la saison, en espérant évidemment beaucoup mieux, c'est-à-dire que le but des Citizens, des joueurs de Guardiola, c'est de faire le quadruplé Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Première Ligue et Ligue des Champions.
Et la Première Ligue, eh bien, Liverpool tentera de repasser en tête puisque eh bien, l'équipe disputera ce week-end son match de championnat face à Southampton avec l'occasion de repasser en tête en cas de victoire.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément un déplacement facile pour Liverpool parce que Southampton, sur son dernier match à domicile, a battu Tottenham. C'est une équipe qui était vraiment en perdition hein, sur la fin d'année dernière, enfin dès le début de saison et la fin d'année dernière. Et puis ils ont changé d'entraîneur, ils ont recruté un ancien entraîneur venu de l'écurie Red Bull, comme on dit, hein, puisque il a entraîné notamment Ralf Hasenhüttl, si je me trompe pas, le Leipzig, et il me semble qu'il a aussi entraîné en Autriche. C'est un entraîneur qui a des proximités, on va dire tactiques et dans le body language. Hein, je vais vous parler anglais ce soir dans la manière de s'exprimer sur la pelouse avec Jurgen Klopp. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner cet affrontement. Mais évidemment, la pression est sur Liverpool. Il faut absolument gagner ce match pour remettre la pression sur Manchester City, repasser en tête du championnat, sachant que City a quelques rencontres pas forcément facile qu'il attende, évidemment en Ligue des Champions contre Tottenham. Il y a aussi un match contre Manchester United. Cela dit, Liverpool, le week-end prochain, recevra Chelsea.
Et des questions de nos auditeurs. Déjà, le bonjour de Abdelzak Al-Qsbaoui, également de Mohamed Aitali, puis l'Alj Hassan qui demande des nouvelles de Mesut Özil, l'ancien international allemand à Arsenal. Il dit, est-ce qu'il est partant cet été, Aurélien, rapidement?
On imagine mal Mesut Özil rester à Arsenal une saison de plus. On a l'impression qu'il a des rapports compliqués avec le nouvel entraîneur Unai Emery. Il joue pas beaucoup. Il est très inconstant, mais ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de Mesut Özil. Mais très honnêtement, vu le poids qu'il a en termes de salaire et le rendement qu'il offre à Arsenal cette saison, c'est très peu probable qu'il soit conservé par Arsenal, d'autant plus qu'Arsenal n'a pas un gros budget pour recruter de nouveau au Mercato cet été. Donc il va falloir alléger la masse salariale, il va falloir essayer peut-être de récupérer un peu d'argent sur les transferts, sachant qu'un des gros salaires et gros potentiels aussi, c'était Aaron Ramsey, mais Ramsey va quitter libre le club pour aller à Juventus. Donc je pense qu'il est très 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 probable que Özil soit vendu cet été par Arsenal.
Voilà, Hervé, on a retrouvé Hervé. Hervé, rapidement, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter à propos de la Ligue des Champions en Afrique ou bien on passe directement au football français, le championnat?
J'allais vous dire, on peut peut-être pas passer au football français, même s'il faudra faire attention effectivement à ce derby maghrébin. Hein, et ce que j'espère surtout, c'est que ça se passera bien dans les tribunes, qu'il n'y ait pas de soucis majeurs, parce qu'on sait que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais ce sera intéressant de voir ces matchs aller pour avoir une plus fine analyse au moment où les matchs retour se disputeront.
Ça a déjà chauffé cet après-midi lors de la conférence de presse parce que l'entraîneur adjoint de l'Espérance, Attraoui, a quitté la conférence de presse au moment où un journaliste, un confrère algérien, lui a posé la question pourquoi il est là et non pas l'entraîneur principal. Du coup, il a quitté la conférence malgré l'intervention de plusieurs responsables. Eh bien, il a quitté la conférence. Donc, on espère, et vous le disiez, Hervé, que ce derby maghrébin, d'autant plus que l'équipe algérienne accède pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition. Le football français, On le sait, depuis quelques mois, j'allais dire quelques années, le Paris Saint-Germain sera champion de France. La date qui reste à être fixée, peut-être dès ce week-end, Hervé.
Eh ben oui, tout à fait. Ça peut se passer dès ce week-end. Il faut que Lille perde, hein, bien sûr, le poursuivant. Et puis eux, il faut qu'ils s'imposent de leur côté, mais contre Strasbourg. Mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses de notre championnat, parce que même si c'est pas ce week-end, ce sera la semaine d'après. Et il y a un ogre, quelqu'un qui dévore absolument tout, et puis le reste de la meute. Et ça, c'est pas terrible non plus pour l'image du championnat. Quand vous êtes un petit peu trop champion, faut quand même de temps en temps être accroché. Lille avait le profil d'une équipe pour créer une surprise pour être deuxième, mais jamais, évidemment, pour s'imposer contre le Paris Saint-Germain. Mais ça veut dire aussi, en creux, que le Paris Saint-Germain a su gérer son championnat de manière absolument incroyable, avec une volonté de ne rien lâcher. J'ai encore en mémoire cette victoire à Caen. Ils sont menés, ils mettent deux buts en fin de match, le but de Mbappé. Car ils sont tellement obsédés par les chiffres, tellement obsédé par la volonté de marquer l'histoire du football français, et notamment Mbappé. Mbappé, lui, il a tout à fait ça en tête, qu'à un moment, ils veulent tout gagner. Alors, ils ont perdu contre Lyon, à Lyon, mais depuis, c'est quand même un parcours remarquable. Même s'ils ont eu des difficultés contre Nantes en Coupe de France avec un arbitrage très favorable, ils s'imposent quand même 3-0, et puis ils ont cette idée qu'il faut gagner la Coupe de France, et il faut peut-être dépasser ces fameuses barres de 100 points, qui est pas un truc anodin quand même. Ça veut dire qu'il y a une régularité, même si le Paris Saint-Germain est largement supérieur. Il faut que tout le monde soit dans le projet. Donc voilà, c'est ce qui rend le truc sympa pour la fin de saison, c'est de se dire, est-ce qu'ils sont capables de battre tous ces records qui vont accrocher à droite à gauche, Mbappé dépasser largement les 30 buts, etc., etc.
Merci beaucoup Hervé Penaud. On aura l'occasion de revenir sur le week-end sportif en France et en Afrique dès lundi prochain dans l'après-match. Merci Hervé et bonne soirée. Une dernière question, Aurélien, avant de retrouver Simone Rovera, mais rapidement, on voulait évoquer le cas de Pogba. Vous le savez, l'international français annoncé un peu partout, le Real, le Barça, d'autres équipes. Mais d'abord, Tottenham a perdu, on ne va pas dire toute chance de remporter le championnat, mais il est largué. Mais Tottenham a quand même une bonne nouvelle qu'il a annoncée ces dernières 24 heures, Aurélien.
Alors, je ne sais pas par rapport
c'est
à
le stade, bien entendu.
Pogba, je sais. Ah, le stade, oui. Bah, alors, le stade, ça a été plus qu'annoncé, puisqu'ils l'ont inauguré enfin de manière officielle en battant Crystal Palace 2-0. Et alors, petite ironie de l'histoire, c'est pas Harry Kane qui a marqué le premier but de Tottenham dans cette nouvelle enceinte, mais c'est le très bon attaquant de l'équipe, Hung Song-min, qui a mis un très beau but d'ailleurs, et le deuxième a été marqué par Eriksen. C'est vrai que Tottenham l'attendait depuis longtemps, ce stade, hein, ça faisait des années qu'il était en préparation, il y a eu beaucoup beaucoup de retard. Imaginez, ils étaient censés déjà la saison dernière le récupérer. C'est un stade qui a coûté plus d'un milliard d'euros à construire. Ça pose beaucoup de questions, hein, dans la presse anglaise, sur la capacité de Tottenham de rentabiliser ce stade. Ça pourrait peut-être encore une fois se jouer au détriment des supporters, parce que le risque, c'est vraiment que le prix des abonnements des Spurs s'envole la saison prochaine. On verra ce que ça donne. Et puis très rapidement pour Pogba. Bah, Pogba, si vous voulez, vu qu'il est courtisé, il demande à être augmenté par Manchester United, et il demande globalement le salaire que touche actuellement Alexis Sanchez, qui ne joue pas, c'est-à-dire quasiment 600 000 euros par semaine, c'est-à-dire quasiment 2 millions et demi par mois. Voilà, ça ferait quasiment, avec les primes, etc., plus de 30 millions d'euros par an pour Pogba, juste au niveau salaire à Manchester United. C'est assez impressionnant, mais c'est de bonne guerre, j'ai envie de vous dire, quand déjà il y a un joueur qui est payé cette somme-là ou quasiment dans l'équipe, et puis quand on est aussi demandé que l'international français champion du monde.
Merci beaucoup Aurélien de Vernon, notre monsieur football anglais. On se retrouve lundi pour évoquer le week-end, bien sûr les matchs de coupe et également au championnat. Merci Aurélien et bonne soirée. On prend la direction de l'Italie pour accueillir Simone Rovera. On va essayer de faire rapidement avec Simone, parce qu'avant d'évoquer ce match entre le Milan AC et la Juve, vous le savez, peut être sacrée également championne d'Italie dès ce week-end en cas de victoire, à condition que Naples, qui joue en déplacement, eh bien Naples perde, bien entendu. On va revenir sur ce match tout à l'heure dans la deuxième partie de l'avant-match. Mais d'abord, cette semaine, vous le savez, la rencontre Cagliari-Juve a été marquée par des chants racistes à l'égard d'un joueur de l'équipe de la Juve. Racontez-nous en détail ce qui s'est passé cette semaine, Simone.
Moïskane a marqué un but à la fin du match, donc il a célébré devant les supporters de Cagliari, un geste qui a semblé à Leonardo Bonucci en provocation de son coéquipier vers les supporters, donc il a cherché de mettre terme à ça, il a ramené son coéquipier vers le terrain et s'est excusé avec les supporters adverses parce qu'il n'avait pas compris ce que s'était passé avant, il n'avait pas entendu. Donc Leonardo Bonucci dans sa tête voulait jouer un peu les grands frères, et à la fin du match, quand il a parlé avec la télévision italienne, il a augmenté, on peut dire, la dose, en disant que d'une certaine façon Moïskine était un peu fautif aussi sur la situation. Oui, ça fait vraiment la une de l'actualité le lendemain. Aujourd'hui, bien sûr, on commence à parler de Juve Milan, on commence à parler de la Ligue des Champions. Malheureusement, encore une fois, quand on aurait dû parler de magnifiques buts d'un jeune joueur, d'un jeune attaquant italien qui devient toujours plus important pour la Juve, on doit parler d'autre chose parce qu'il y a encore des épisodes de racisme dans le foot italien. On n'arrive pas totalement à éradiquer ces mal. On attend de voir quels seront et s'il y aura des sanctions importantes vers les supporters des Cagliari. Et en plus, un joueur important comme Leonardo Bonucci n'a pas maîtrisé la situation, n'a pas maîtrisé sa com. Il a rendu encore plus compliqué la soirée du foot pour Osmo Esken et pour tous les amoureux de foot italien qui voudraient voir finalement un jour le racisme sortir de nos terrains.
Merci Simonet, vous restez avec nous. Après le flash, les dernières informations avec Julie Rosselin, on va se retrouver pour évoquer justement ce match, ce choc en Italie, puisque on le sait, la Juve leader affronte le Milan AC. Le Milan AC qui veut décrocher une place européenne se doit de l'emporter, alors que la Juve tentera de rester bien entendu sur cette dynamique victorieuse, mais surtout la formation turinoise pense à son match de la semaine prochaine contre l'Ajax d'Amsterdam. C'est en Ligue des Champions, les quarts de finale aller. Et Allegri, l'entraîneur, va-t-il aligner l'équipe type? Des doutes concernent surtout Cristiano Ronaldo, vous le savez, l'international portugais blessé avec la sélection lors des matchs du championnat d'Europe. Cristiano Ronaldo devrait être au repos, tout comme Dybala et d'autres joueurs cadres, à condition de ne pas s'incliner face au Milan AC pour tourner la page du championnat italien et se consacrer exclusivement à cette Ligue des Champions. La Juve, vous le savez, a perdu deux fois ces dernières années face au Real Madrid et également face au Barça, l'équipe de la Juve qui a engagé Cristiano Ronaldo pour gagner la C1. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir. La deuxième partie de l'avant-match, vous le savez, la première partie, on a évoqué le football en Angleterre, le football en Afrique avec les coupes africaines, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, également la coupe de la CAF, sans oublier ces rumeurs relayées par la presse internationale, l'avenir de Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, annoncé du côté de l'Olympique lyonnais, et on parle aussi de Laurent Blanc, l'ancien international français, ancien entraîneur de l'équipe de France et également du Paris Saint-Germain, de Bordeaux notamment. C'est faux, nous a dit tout à l'heure Hervé Penon, notre consultant pour le football africain. La deuxième partie, avant d'évoquer le football espagnol et le football allemand avec David Lortolari et Frédéric Kermel en Espagne, on va essayer de faire intervenir, puisque Simone Rovera est resté avec nous, rapidement pour évoquer ce choc entre le Milan AC et la Juve qui peut être sacré en cas de victoire, à condition que Naples perde son match, et surtout ça permettrait à l'équipe turinoise de se concentrer sur la Ligue des Champions et ce match contre l'Ajax d'Amsterdam. Simone, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette rencontre?
C'est pas si simple parce que la Juve doit gagner. Je pense que c'est pas un problème pour l'équipe de Massimiliano Allegri, mais Naples devrait perdre face au Genoa. Donc, c'est pas les Scudetto dimanche soir, bien sûr, dans la tête de Bianconeri, la priorité, mais plutôt les matchs face à l'Ajax. Et cette question, est-ce que Cristiano sera prêt? Selon les dernières nouvelles, Cristiano devrait participer au voyage pour Amsterdam et pourrait quand même être titulaire. Mais avant ça, il y a ces matchs face au Milan. Un Milan qui arrive en difficulté avec des joueurs importants comme Paqueta qui ne sera pas disponible, avec les retours de Souza qui quand même vise une fin de saison bien meilleure de cette deuxième partie et avec l'obligation de faire résultat parce que derrière la Lazio arrive, la Roma quand même fait des petits points même si la situation de club giallorosso n'est pas extraordinaire et donc la place en Ligue des Champions, surtout avec une Atalanta flamboyant, est vraiment en danger. La Juve par contre on pense que va jouer avec beaucoup de recul, c'est-à-dire la priorité c'est être 100% face à l'Ajax, Chiellini devrait reposer, on n'est pas sûr 100% de voir Allegri prendre risque avec Dybala et Mandzukic ou Moise Kean. Oui, parce que Moise Kean, le grand protagoniste de la semaine, a marqué encore un but à Cagliari, il est une forme extraordinaire et on se pose la question, est-ce que Moise Kean va être titulaire face au Milan ou va être lui préservé pour être prêt face à l'Ajax? Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup des absents bien sûr, mais on parle des Juve Milan, un match qui est très important pour la Ligue des Champions et qui pourrait être décisif pour le titre. Donc il n'y a aucune doute pour moi, c'est les matchs à regarder du week-end.
Voilà le match du week-end pour Simone Rovera, pour vous. Donc Simone, c'est le match du week-end, Milan AC, Juve. Mais il y a également, si on part en Allemagne, on va dire que Bayern, Borussia Dortmund, ça vaut le détour. Parce que si le Bayern s'impose, eh bien il y aura un changement de leader. Par contre, en Espagne, là aussi, le Barça qui reçoit l'Atlético Madrid. Quel que soit le résultat, le Barça restera en tête. Mais eh bien, en cas de défaite, l'Atlético, qui n'a plus rien à gagner cette saison, à part ce championnat, eh bien revient à 5 longueurs et à 7 journées de la fin. Tout reste possible. Eh bien, Simone, vous parliez de Naples. L'entraîneur de Naples, c'est Carlo Ancelotti. Ancelotti, ancien du Real Madrid. Et il se trouve que Frédéric Hermel est à Naples, justement, à l'aéroport, apparemment. Bonsoir, Fred.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir à tous. Désolé, il y a un petit peu de bruit de fond. Mais oui, je rentre à Madrid dans quelques minutes, après avoir passé 2 jours, une visite chez mon vieil ami Carlo Ancelotti.
C'est un test pour l'année prochaine, Fred ?
Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Hier soir, avec Carlo et son épouse Marianne, nous dînions tous les trois dans un restaurant de poissons à Naples. Et avec Carlo, on parle en espagnol. Je parle français avec sa femme et je parle espagnol avec Carlo. Et il y avait des gens, une table derrière, qui sont venus en disant « Mais c'est un émissaire, ce monsieur est un émissaire du Real Madrid, venu pour négocier pour Koulibaly. »
Voilà. Voilà. Voilà, c'est une question inévitable. Donc.
Voilà. Exactement, parce que c'est vrai que Naples a quand même de très bons joueurs qui intéressent, et Simone nous en a souvent parlé, hein, qui intéressent beaucoup de grands clubs européens, à commencer par Koulibaly, hein, qui est vraiment un défenseur central très puissant, très important, et qui plaît beaucoup en Europe. Hein, et on sait qu'au niveau des salaires, Naples ne peut pas lutter avec les grands clubs européens, parce que c'est un club qui a un bon petit budget, mais qui est bien géré, qui ne fait pas de folie, qui rentre dans les clous voilà, et qui ne peut pas retenir absolument ses meilleurs joueurs. Mais c'est vrai que Koulibaly, on en parle du côté du Real, si d'aventure Raphaël Varane venait à partir, et je peux vous assurer que Varane a envie de partir. Après, est-ce que Florentino Pérez, le président, et surtout Zidane sauront le convaincre de rester? On le saura dans les prochains mois.
Et ben voilà, on aura d'autres informations bien sûr durant les prochaines semaines pour le marché des transferts. Une autre star, mais qui n'aime pas les lumières, j'allais dire, toujours dans l'ombre, David de l'Ortolari, notre monsieur football allemand. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, salut à Fred et bonsoir à tous. Et pour ce qui est du match du week-end en Allemagne, ça vaut plus que le détour, Hakim. Ça vaut carrément le voyage en Bavière. En plus, c'est le printemps, il fait beau dans la campagne bavaroise.
Voilà, donc avant de parler de ces matchs, bien sûr, parce qu'on aimerait bien sûr, parce que cette semaine, et c'est bien d'en parler, parce que c'est un exemple et ça fait plaisir. David, le président de la Fédération de football, la Fédération allemande, a présenté sa démission. Peut-on savoir pourquoi ?
Oui, alors on a évoqué déjà subrepticement, par-ci par-là, les difficultés de ce président Reinhard Grindel qui était très critiqué de partout, par les commentateurs, par les joueurs aussi à mots couverts, par les dirigeants des différents clubs, qui était un protecteur pour le sélectionneur Joachim Löw, mais qui était très, très très critiqué pour différentes raisons. D'abord, un problème de compétence, et c'est ce qui est apparu en dernier dans les dans les critiques, parce que c'est très brutal, c'est très frontal de dire que voilà un président incompétent. Bon, les choses ont fini par être dites. C'est vrai que ce n'était peut-être pas le plus grand connaisseur du football. C'est un homme qui venait du monde politique, qui avait été, si je me souviens bien, élu de la droite traditionnelle allemande et qui était arrivé comme président de la fédération plutôt par des logiques politiques d'influence plus que par des connaissances footballistiques. Ça n'est pas un ancien joueur, ça n'est pas voilà. Et ça, c'était une critique qui est apparue clairement publiquement ces derniers temps. C'était quelque chose de difficile à contrer pour lui, et puis une grande critique dans l'appréhension qu'il a eue du football, des dossiers de la sélection, des dossiers, des rapports avec les clubs. Il a été souvent considéré comme méconnaissant les dossiers, souvent hors sujet sur la façon de traiter les choses. Il a eu effectivement, Hakim, c'est bien de le dire, l'activité, le choix de lui-même de finalement partir, mais la pression était devenue vraiment trop forte. Ce président était critiqué de partout et il a dû céder la place. C'est quelque part un processus logique et considéré comme tel en Allemagne. Maintenant, on va avancer avec de nouvelles personnes et là, sur ce plan, je ne peux pas vous donner d'informations pour l'instant.
Vous restez avec nous, David. On va revenir sur ce match entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Pour l'instant, c'est Dortmund qui est en tête avec 2 points d'avance sur le Bayern. Cette semaine, on le sait, vous l'avez évoqué d'ailleurs sur notre antenne, la blessure et l'opération de Achraf Hakimi, le joueur du Borussia Dortmund. Il appartient toujours au Real Madrid pour faire plaisir à Fred, mais c'est la réalité. Et l'international marocain, eh bien, incertain pour la CAN, même si le médecin de la sélection marocaine a expliqué qu'il pourrait participer à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La proximité géographique fait que, eh bien, c'est vrai que le Bayern Dortmund, c'est une très belle affiche, une finale de Ligue des Champions, mais à Barcelone, c'est quand même pas mal non plus, puisque le Barça affronte l'Atlético, les leaders, qui reçoit son dauphin. Et ce qu'on peut dire, c'est le match de la dernière chance pour l'Atlético, qui était très critiqué après son élimination par la Juve. Mais le Barça aussi, c'est important, Fred.
Ah, on peut le dire. C'est vraiment le match de la dernière chance. C'est-à-dire qu'un nul ne suffirait pas. Parce qu'un nul, bien entendu, permettrait de garder au Barça de garder une distance de 8 points d'avance sur l'Atlético, en sachant qu'il reste, il restera 7 journées après ce match de demain soir à 20h45, 19h45 heure de Tanger. Voilà, on peut dire que si l'Atlético ne gagne pas, si elle ne réduit pas la distance entre les deux équipes à 5 points, ce sera fini. Et je vais même vous dire, 5 points, ça restera beaucoup à cette journée de la fin. Mais l'Atlético, tu as raison de le dire, l'Atlético n'a plus que ça à jouer. Alors que le Barça, automatiquement, a son gros objectif qui est la Ligue des Champions. Il y a le match contre Manchester United à Manchester mercredi prochain. Donc voilà, et on imagine que cette équipe du Barça va passer ce tour-là. C'est une équipe supérieure à Manchester United. Et donc elle sera très rapidement projetée vers les demi-finales. Donc il y a un risque d'avoir des influences négatives au niveau des points. Parce qu'on voit par exemple que cette équipe, dès qu'elle fait reposer un petit peu Messi, il faut le faire rentrer, comme ce fut le cas l'autre jour à Villarreal, où le Barça a égalisé 4-4 in extremis. Donc voilà, il n'y a qu'une seule solution pour qu'il y ait encore du suspense dans cette Liga pour le titre, c'est que l'Atlético gagne. S'il n'y a pas victoire, ça en sera fini et le Barça, on pourra dire que les Catalans sont officiellement, ou en tout cas officieusement, champions d'Espagne.
D'autant plus que le calendrier, même si on l'a vu ces dernières années, ça ne veut pas dire grand-chose. Les petites équipes, eh bien, jouent leur avenir également et ça devient très difficile. Le calendrier semble avantager le Barça par rapport à l'Atlético, notamment avec des matchs contre le Valencia et le FC Séville pour l'Atlético.
Oui, parce que l'Atlético a des matchs compliqués contre Valence et Séville pour une raison très simple, c'est que Valence est à un point du quatrième, Retafe qui va pas tenir le rythme, Valence qui a battu le Real 2-1 ce mercredi soir, et cette équipe de Valence qui veut absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Séville n'a pas encore dit son dernier mot. Séville qui avait été lamentablement éliminé en 8e de finale de la Ligue Europa, alors que de l'autre côté, vous avez Valence qui peut faire un très beau doublé, c'est-à-dire accrocher, pourquoi pas, une demi-finale, voire une finale d'Europa League. Je pense que Valence qui tombe contre Villarreal en Ligue Europa, normalement, devrait se qualifier pour la demi-finale, et puis terminer quatrième de la Liga et aller directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui ne ferait que conforter un peu plus le projet de cette équipe de Valence qui revient dans la cour des grands après quand même des années de tumulte et de changements d'entraîneur et de mauvais résultats et de gros problèmes économiques. Ça va beaucoup mieux du côté de Valence, donc il faut vraiment culminer ça par de nouveau une qualification pour la Ligue des Champions.
Voilà, il y a la finale de la Coupe d'Espagne face au Barça également. Et justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette victoire face au Real. En parlant du Real, c'est quand même la 9e défaite cette saison en championnat. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que, comme le dit une certaine presse en Espagne, il faut raser tout ou bien quelques ajustements?
Ah, la presse espagnole ne fait finalement qu'interpréter les paroles très claires de Zinedine Zidane. Quand Zidane dit il y aura du changement, c'est pas un joueur, c'est pas deux joueurs, c'est pas trois joueurs, c'est pas quatre joueurs, c'est cinq ou six joueurs. C'est-à-dire c'est une équipe titulaire qui va être totalement transformée. Je peux déjà vous dire que Gareth Bale ne sera plus là, on en a souvent évoqué. On a du souci à se faire, je pense, pour Isco, pour Kroos, Varane pourrait partir. Le gardien va changer, c'est-à-dire que Keylor Navas va souvent être titulaire l'année prochaine. Il faudra Courtois ne sera qu'un deuxième choix, je pense, pour l'entraîneur français, qui lui laissera peut-être la coupe ou quelque chose comme ça. Mais le titulaire devrait être Varane, Keylor Navas. Mais Courtois, lui, s'inquiète. Il n'a pas été très bon et cette saison, il a fait ce qu'il a pu. Mais Zidane aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Keylor Navas. Et donc, je suis persuadé que Keylor Navas sera le gardien titulaire la saison prochaine. Donc, il y aura. Mais au-delà de ça, les arrivées de Pogba, d'Hazard, qui sont quasiment faites. C'est-à-dire que Hazard va venir, c'est sûr. Pogba a de grandes chances de venir. Et puis, on sait qu'il y a l'intérêt pour Adrien Rabiot, qui arriverait libre du PSG. Et puis, le rêve de Mbappé, avec cette volonté et du Real et du joueur de trouver un accord. Après, il reste à négocier avec le PSG, ce qui n'est pas une mince affaire, mon cher Hakim.
Voilà, justement, le Real Madrid qui devrait montrer un autre visage la saison prochaine. On rappellera que l'équipe est toujours troisième en championnat d'Espagne. Le choc Real plutôt Barça-Atlético, Milan-AC-Juve. Mais on le disait tout à l'heure, en Allemagne, Bayern Dortmund, le Bayern a l'occasion de repasser en tête, même si cette semaine, la qualification en coupe, ça a été, j'allais dire, cauchemardesque, parce que c'était un match fou face à une équipe de deuxième division, 5-4 à l'arrivée, et retrouver Dortmund, c'est bon pour le moral et la confiance, mais l'équipe a été secouée, David.
Oui, on peut vraiment dessiner un tableau en clair-obscur avec des arguments pour les uns, des arguments pour les autres. Voilà un match furieusement indécis. Hein, au moment de l'aborder, Hakim, c'est vrai, pour Dortmund, il y a eu une semaine de préparation complète. Il n'y avait pas de match de coupe parce que Dortmund avait été éliminé en Coupe nationale par le Werder Bremen au tour précédent. Et pour le Bayern, il y a eu ce match complètement rocambolesque avec quatre buts encaissés effectivement par cette équipe sixième de deuxième division. Un Bayern un peu déboussolé, un président dans les tribunes qui regardait, qui cherchait de l'aide un peu partout, vers le ciel aussi évidemment, sans trop savoir où il habitait. Et c'est vrai qu'il y a deux trajectoires qui s'entrecroisent avec un Borussia Dortmund qui n'est pas au mieux physiquement, mais qui s'est refait une santé psychologiquement avec trois succès consécutifs. Et un Bayern qui, à l'inverse, va plutôt bien physiquement, mais qui est cabossé psychologiquement, avec parfois des succès larges, retentissants, des 5-1, 6-0, et à côté de ça, un piteux match nul contre Fribourg, un but partout, Fribourg qui est une équipe assez modestement classée, mal classée même, et puis ce 5-4 très très incertain contre Heidenheim, donc c'est très difficile de prévoir ce match. Alors il y a quand même quelques acteurs, et on peut le dire très facilement, quelques acteurs qui seront comme d'habitude décisifs. Ça peut être un Marco Reus par exemple côté Dortmund, ça peut être un Lewandowski côté Bayern, qui en est à 199 buts dans ce championnat Bundesliga, qui piaffe d'impatience, il l'a encore dit dans les interviews cette semaine, de réussir son 200e but et de rejoindre un cercle très fermé. Je crois qu'ils ne sont que 4 pour l'instant dans l'histoire à avoir réussi ce score. Donc Gerd Müller évidemment le plus connu, et voilà, donc il y a des arguments des deux côtés et c'est très difficile, il faut être malin pour vraiment donner un avantage à l'un ou à l'autre. Petit avantage psychologique peut-être au jaune et noir, petit avantage physique peut-être et sur la forme du groupe côté Bayern, mais du coup ça fait vraiment une forme de 50-50.
Voilà notre dernière question, nos auditeurs qui veulent savoir, parce que, eh bien, on le disait hier, Ousmane Dembélé, l'international français, est blessé, vous le savez, absent pendant plusieurs semaines, s'est entraîné, il a retrouvé le groupe, mais va-t-il jouer? Je ne pense pas, mais Fred va nous répondre rapidement. Les chances de revoir Dembélé sur le terrain, peut-être pour Manchester, mais pas pour demain.
On va pas se précipiter, vu tous les matchs qu'il y a pour le Barça avec, comme tu dis, la Manchester. Non, il y aura pas de précipitation avec Ousmane Dembélé. Il va revenir tout doucement. Surtout qu'on a vu cette saison, et la saison dernière, que c'est quand même un garçon assez fragile. Donc il est bien évident que le très intelligent Ernesto Valverde ne va pas prendre de risques avec le Français qui, bon an mal an, quand il peut jouer, fait quand même une belle saison.
Bah justement, on l'a vu, il a été décisif, il a même jeté en quelque sorte Coutinho sur le banc des remplaçants. Et malheureusement pour le jeune international français qui, vous le disiez Fred, fragile, souvent blessé, souvent absent. Mais on le voit quand il est sur le terrain, on voit qu'il fait souvent la différence. Merci beaucoup Frédéric Hermet, notre monsieur football espagnol qui est à Naples. Bon vol, bon retour et à lundi prochain. Et également merci à David Lortolari, notre monsieur football allemand. On aura l'occasion de revenir sur ce match, les péripéties de ce choc Bayern Borussia Dortmund lundi prochain dans l'après-match. Merci à tous, merci à monsieur Nmir à la réalisation. Oussama Hanich nous écrit à la dernière minute les joueurs qu'il faut pour Valverde, laisser Messi et Suarez au repos. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur les choix de Valverde qui a un calendrier chargé, le Barça qui dispute la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne et également le championnat espagnol. Merci à tous, excellent début de soirée à l'écoute de Midi.
C'est pas terminé. Et voilà le premier but de Neymar en Ligue 1 sur un service d'Edinson Cavani, un prêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.